L'instruction du procès des leaders présumés de la CCAT se fera en métropole. La Cour de cassation a décidé de dépayser le dossier et a renvoyé l'affaire à un magistrat parisien. Manuel Valls parle de la Calédonie lors de ses vœux aux Outre-mer. Il faudra trouver un accord parce que sans accord, il n'y a pas d'avenir pour la Calédonie, a-t-il dit. L'épidémie de grippe n'est pas terminée sur le territoire. La grippe B vient en plus de faire son apparition. Bernard Arnault est sorti de son silence. Le patron de LVMH est exprimé devant la presse pour dénoncer les hausses d'impôts sur les plus grosses sociétés prévues dans le projet de budget. Et puis du handball dans la page sport avec des Bleus qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde. Ils ont sorti de justesse l'Égypte en quart. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le dossier CCAT sera donc instruit à Paris. La chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de dépayser le dossier. Elle a en effet dessaisi le juge d'instruction de Nouméa de l'enquête et renvoyer l'affaire à un magistrat parisien, Nicolas Legrand.
Oui, la raison invoquée semble d'ordre pratique. Alors l'arrêt de la chambre criminelle n'a pas été rendu public, mais l'AFP a pu le consulter et la chambre estime que les circonstances locales et notamment l'exécution en dehors de la Nouvelle-Calédonie des mesures de sûreté en cours justifient le renvoi de la procédure. Comprenez par là le placement en détention provisoire ou alors les assignations à résidence des principaux cadres de la CCAT en métropole, dont le leader Christian Théin. Ce dépaysement du dossier à Paris permettrait donc de faciliter le travail du magistrat instructeur, notamment pour les auditions des mises en cause, ce qui semble donc fermer la porte à l'autre recours des avocats de la CCAT, à savoir le retour sur le territoire des personnes incarcérées en métropole. Deux demandes que le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, Bruno Dalle, avait d'ailleurs qualifié sur notre antenne de schizophrénique. Bruno Dalle, qui avait, je le rappelle, rejeté en première instance la demande des avocats du FLNKS. Il estimait que les conditions matérielles, grâce au renfort de magistrats notamment, étaient réunies à Nouméa pour instruire ce dossier. Et il avait notamment contesté les accusations de partialité formulées par les avocats des mises en cause. Accusations qui ne semblent pas avoir été retenues non plus par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour justifier ce dépaysement. Pour mémoire, 8 militants de la CCAT sur les 13 mis en examen ont demandé ce dépaysement de l'information judiciaire. Je rappelle qu'elle a été ouverte par le parquet de Nouméa pour complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destruction ou dégradation de biens, vol avec armes et destruction par moyens dangereux, et ce, en bande organisée.
Lors de la cérémonie des vœux rue Oudinot, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a évoqué ses priorités et notamment la Nouvelle-Calédonie, avec la confirmation, Elisabeth Noir, de l'ouverture des discussions sur l'avenir et les menaces d'ingérence étrangère.
Pour le ministre d'État, ministre des Outre-mer, il y a trois urgences, trois dossiers prioritaires. La reconstruction de Mayotte, la lutte contre la vie chère aux Antilles et la Nouvelle-Calédonie avec la recherche d'un accord en vue d'un avenir commun. Manuel Valls confirme l'ouverture de discussions bilatérales dès la semaine prochaine à Paris. Le ministre qui s'inscrit dans la continuité de Michel Rocard et qui reconnaît qu'il y a un avant et un après 13 mai 2024.
L'autre priorité, c'est bien sûr le chemin d'un avenir commun en Nouvelle-Calédonie. C'est un travail que nous devons mener avec un grand esprit de responsabilité. Et dès la semaine prochaine, nous commencerons des discussions bilatérales dans cette même maison avec l'ensemble des partenaires politiques. Il y a eu et il y a un avant et un après 13 mai 2024. Personne ne peut le nier. Bien sûr, moi je me place dans la continuité, je l'ai dit ici au moment de la passation de pouvoir, avec François-Georges Buffet qui avait déjà bien travaillé au cours de ces derniers mois, notamment sur ce dossier, dans la continuité de Michel Rocard et Lionel Jospin, avec qui j'ai travaillé, ou de l'action qui fut la mienne comme chef du gouvernement. Là aussi, ça m'oblige.
Des discussions dès le début du mois de février, alors que les groupes politiques sont sur place ou vont se rendre à Paris dans les prochains jours. Et pour Manuel Valls, il faudra trouver un accord. Parce que, dit-il sans accord, il n'y a pas d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie.
Je sais que le chemin va être difficile, parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu des morts, le sang a coulé, et nous devons repartir sur des bases saines, en rappelant que nous venons des accords de Matignon, et plus particulièrement de Nouméa, et que cela nous oblige. C'est un socle sur lequel nous devons avancer, et que l'émancipation, la décolonisation, l'autodétermination sont des mots qui sont désormais dans ces accords de Nouméa et donc dans la constitution de notre pays. Nous ne devons pas l'oublier, mais moi je prendrai mes responsabilités, nous prenons nos responsabilités, c'est la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre, et il nous faudra trouver un accord, car sans accord, il n'y a pas d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut reconstruire sur le plan économique et il faut redonner une confiance sur le plan politique.
Et puis Manuel Valls a également évoqué la Nouvelle-Calédonie en pointant du doigt ce qu'il appelle les prédateurs qui s'en prennent à la France. Le ministre des Outre-mer condamne les ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie et il juge inacceptable la participation de responsables et d'élus indépendantistes au groupe de Bakou.
Nous faisons face à des prédateurs, nous faisons face à des adversaires de la France, à des gens qui veulent nous chasser. Nous le sentons bien. À Mayotte, avec la proximité des Comores, avec qui il faut rétablir un véritable rapport de force. Nous le sentons aussi en Nouvelle-Calédonie. Nous sentons aussi, même si je ne veux pas exagérer le rôle, mais c'est une réalité à travers les initiatives d'un pays comme l'Azerbaïdjan et malheureusement avec des élus, des politiques qui participent à ce qu'on appelle le groupe de Bakou. C'est inacceptable de participer à des opérations qui visent tout simplement à affaiblir la France et la République. Qu'il y ait des aspirations d'autonomie et des aspirations indépendantistes, elles existent. Elles font partie du paysage politique d'un certain nombre de territoires. Mais on ne peut pas participer avec des puissances étrangères à la déstabilisation de notre pays. Tout le monde, d'ailleurs, y serait perdant.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Et après cette cérémonie de vœux, Manuel Valls s'apprête à partir de nouveau à Mayotte en compagnie de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Pensez-vous que la séquence de négociations qui doit s'ouvrir à Paris la semaine prochaine va permettre de faire avancer les choses? Si vous pensez qu'elle va permettre de faire avancer les choses, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier est seuls 10% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les conditions sont réunies pour une ouverture permanente de la RP1 à Saint-Louis au 1er février. Ils sont 90% à penser que ce n'est pas le cas. Christopher Gigès écrit au directeur de la DAE et au président de l'autorité de la concurrence. Le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie tient à les alerter sur les conséquences des émeutes qui ont causé d'importants dommages à plusieurs enseignes du secteur dans la grande distribution, Nicolas.
Oui, et dans ses courriers, le membre du gouvernement souligne que cette situation a eu pour conséquence directe de renforcer la position de certains opérateurs sur le marché et de réduire ainsi le choix des consommateurs calédoniens en affaiblissant la concurrence alors que le contexte économique est marqué par une baisse notable du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, il lui apparaît essentiel de veiller à une régulation renforcée du secteur de la grande et moyenne distribution afin de garantir la transparence des prix et de prévenir les effets liés à une concentration excessive du marché. Christopher Gigès demande en conséquence au directeur de la DAE et au président de l'autorité de la concurrence de bien vouloir intensifier les contrôles dans ce secteur. Il leur demande également des propositions concrètes en vue d'une meilleure régulation de la formation des prix sur le territoire.
11h39 dans un instant. Une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Nous verrons comment s'est passée l'année dans l'entrée dans l'année du serpent de bois. C'était hier soir la fête du Tête au Nouvel An chinois.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour vous comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ambiance de nouvel an. Hier soir, au foyer de l'amicale vietnamienne de Magenta, la communauté vietnamienne a célébré l'entrée dans l'année du serpent de bois. 350 convives ont partagé cette soirée et cette fête qui a culminé à minuit, heure à laquelle 10 000 pétards ont éclaté, comme le veut la tradition, pour chasser les mauvais esprits.
Chasser les mauvais esprits pour commencer une nouvelle année. Pour enlever tout ce qui n'est pas bon de l'année précédente et commencer une nouvelle année.
Passer une très bonne soirée.
Une ambiance géniale, vraiment bon enfant. Tout le monde danse, tout le monde est gai.
C'est l'année du charbon de bois, de la résilience. On se tient droit, on est digne comme un serpent et on continue d'avancer, on est prudent.
Les bonheurs, les santé, nouvelle vie.
Beaucoup de réussite, prospérité et puis pour la Calédonie, une bonne année. C'est l'année du serpent de bois. C'est une bonne année pour moi déjà, je suis ravie.
Une soirée à laquelle ont assisté plusieurs élus, notamment du conseil municipal de Nouméa. Et pour Patrick Guillon, le président de l'amicale vietnamienne, cette soirée s'était vraiment déroulée dans une ambiance conviviale.
C'est une très belle soirée. Tout le monde, pour un moment, a oublié ses soucis, ses tracas, a laissé l'année passer derrière nous et a partagé les espérances pour une nouvelle année meilleure. Donc nous venons de chasser les mauvais esprits avec les 10 000 pétards. Les licornes sont passées dans la salle pour apporter la chance aux convives. Ce rituel nous amène à rentrer dans ce nouveau cycle, ce cycle du renouveau qui est le tête, le nouveau printemps, ici en Calédonie, le printemps de nos cœurs. Chúc mừng năm mới, bonne année, bonne santé, prospérité, paix et bonheur.
Voilà, la fête du tête au passage dans l'année du serpent de bois s'est clôturée à 2h la nuit dernière au foyer vietnamien de Majata et l'amicale vietnamienne a donné rendez-vous à la communauté le dimanche 23 janvier pour la journée des anciens. La ville de Nouméa lance une opération de collecte de fournitures scolaires. Depuis ce lundi, il est possible de venir déposer à la mairie annexe de la ville tout le nécessaire pour une bonne rentrée pour les enfants. Initiative qui donne aussi un second souffle à certains objets et qui rentre dans le cadre de l'objectif zéro déchet fixé par la mairie. C'est également un coup de pouce bienvenu pour les familles en difficulté, explique Priscilla Rodriguez. Elle est chef de la section déchets du service eau et déchets de la ville de Nouméa.
Ça permet pour des personnes, on va dire, qui ont un petit peu plus de moyens, comme les particuliers ou même d'ailleurs les entreprises ou les administrations, et qui ont trop de fournitures de bureau, de faire un don plutôt que de jeter, et de permettre aux enfants dont les parents n'ont peut-être pas les moyens en ce début d'année, d'avoir les fournitures pour la rentrée scolaire. Ce qui peut être accepté, ce sont tout ce qui est cartable, trousse, les stylos, des crayons, des feutres, qui peuvent être donnés donc aux enfants, également des cahiers, donc l'état, c'est neuf ou usagé, mais en bon état, qui peuvent être réutilisés.
Et vous avez jusqu'au 7 février pour apporter vos fournitures scolaires dans le hall d'accueil de l'annexe de la mairie de Nouméa, en face des quaiferies. Tous les dons récoltés seront ensuite remis à des associations qui les redistribueront aux familles nécessiteuses. Notez que les transports scolaires en province nord seront désormais assurés par le gouvernement. Depuis 2004, la charge du transport hebdomadaire des élèves internes revenait à la province nord. Mais l'institution a annoncé en novembre dernier l'arrêt de ce service. Un dispositif provisoire a donc été mis en place par le gouvernement dans les mêmes conditions que celles fixées auparavant par la province nord pour une période allant du 16 février au 6 juin 2025. Sont concernés par ces changements les élèves des lycées Antoine Kella à Point-d'Imier, Augustin Thi à Touau, Michel Rocard à Pointe-Boute et Doneva à Wailou. Les modalités d'inscription auprès des différents prestataires sont à retrouver sur le site internet du gouvernement. Parlons santé maintenant et plusieurs épidémies de grippe touchent encore la population calédonienne. Le gouvernement avait déjà alerté sur la circulation active de ces virus et à l'approche de la rentrée des classes Michael Juneski, ces épidémies sont loin d'être terminées.
Oui, depuis plusieurs semaines, hein, vous le savez, nous avons enregistré une multiplication des infections respiratoires et la grippe qui est toujours là. Par ailleurs, l'introduction récente d'un troisième type de virus de la grippe pourrait prolonger cette épidémie pour encore quelques semaines. Nous avons fait le point avec Anne-Claire Gourina. Elle est chef du service de santé publique à la direction des affaires sanitaires et sociales.
On a des systèmes de surveillance au niveau des prélèvements qui sont effectués par le réseau Sentinelle et par le centre hospitalier, donc qui nous permet un peu de suivre l'évolution, la diffusion de ces virus et de ces bactéries sur le territoire. Donc au niveau de la grippe, hein, qui a quand même fait l'actualité, on a observé un pic qui s'était marqué fin décembre. Là, on est peut-être sur un phénomène peut-être un petit peu plus descendant, mais avec un taux de positivité des prélèvements qui reste élevé, plus de 20%. Donc elle est loin d'être terminée, cette épidémie de grippe. Et surtout, ce qui nous alerte, ce qu'on redoutait, c'était l'introduction d'un troisième type de virus de la grippe, qui est le virus B, qui a fait son entrée sur le territoire. Et on a déjà recensé 4 cas. Alors 4 cas, c'est pas beaucoup, hein, mais ça représente quand même une circulation de ce virus sur le territoire. Et donc le risque, c'est qu'il y ait une multiplication de ces cas et ça pourrait donc prolonger cette épidémie de grippe, ce plateau, si le nombre venait à augmenter.
La population calédonienne qui est touchée par une grippe hors saison, en quelque sorte, puisque ce type de virus circule habituellement en saison fraîche. C'est ce qui caractérise cette épidémie en cours.
Ce phénomène, il est vraiment atypique. Hein. On est sur un phénomène en dehors des saisons grippales, puisque les saisons grippales, elles ont lieu majoritairement la saison grippale en saison fraîche, plutôt en août-septembre. C'est là qu'on observe la majorité de l'activité des virus grippaux. On peut aussi avoir une circulation de ces virus grippaux en mars-avril. Et là, on est vraiment sur un phénomène totalement anormal. À cette période de l'année, on enregistre très très peu de cas de circulation de grippe. Donc c'est pour cela que les soignants étaient quand même surpris par cette circulation qui est assez intense. Alors l'origine, pourquoi ce pic de façon prononcée à une période inhabituelle? Alors ça peut être expliqué notamment par une mauvaise couverture vaccinale de la population, puisqu'on a enregistré presque moins 40% de vaccination contre la grippe en moins par rapport aux autres années. Forcément des gens âgés qui sont pas vaccinés, pas bien immunisés, donc qui sont plus à risque de faire des formes sévères et à risque d'être hospitalisés. Donc ça exerce une pression supplémentaire sur un système de soins qui est déjà fragile.
Une épidémie qui a donc déjà provoqué, vous le savez, des tensions d'approvisionnement pour certains médicaments dans les pharmacies. Et la circulation de ces virus grippaux trouve plusieurs explications. On retrouve Anne-Claire Gourina.
Donc il y a de la grippe qui circule, on a aussi quelques cas de Covid qui circulent toujours. Je pense qu'il y a une perte aussi des bonnes habitudes sur l'application des gestes barrières. Surtout que ce pic épidémique de grippe, en tout cas, pourrait se prolonger avec la rentrée scolaire. Donc on préfère quand même appeler, rester vigilant sur cette situation. Majoritairement, les formes sévères sont observées chez les personnes âgées ou les personnes qui présentent des facteurs de risque. Hein, mais on peut avoir quand même des formes sévères même chez des personnes en bonne santé. Hein, donc ça, il faut quand même l'avoir toujours en tête. Ça touche aussi les enfants. Contrairement au Covid, la population pédiatrique est plus affectée par les virus grippaux. C'est pour ça que l'OMS est extrêmement vigilant sur la surveillance des épidémies de grippe, puisque une pandémie pourrait avoir un impact violent sur la population infantile.
Anne-Claire Gourina, chef du service de santé publique à la direction des affaires sanitaires et sociales. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait appelé la population à être particulièrement vigilante face à ces différents virus respiratoires, notamment pour éviter un afflux trop important de patients à l'hôpital ou chez les médecins. Si ces maladies sont considérées comme bénignes, vous l'avez entendu, elles peuvent entraîner des complications graves chez les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les jeunes enfants. Comme c'était le cas lors de la pandémie de coronavirus, le port du masque est notamment conseillé pour ceux qui présentent des symptômes grippaux, tout comme les gestes barrières et l'importance de se laver les mains régulièrement en utilisant si possible du gel hydroalcoolique.
La direction des affaires sanitaires et sociales rappelle aussi la population qu'une l'épidémie de coqueluche est toujours en cours à l'échelle mondiale. Cette maladie peut notamment toucher sévèrement les nourrissons qui n'ont pas encore été vaccinés contre la bactérie. L'actualité dans la région nous emmène au Vanuatu. Aucune majorité n'est sortie des élections qui ont permis de renouveler les membres du Parlement. Et face à cette situation, 5 partis politiques viennent de signer un protocole d'accord pour former le prochain gouvernement. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces 5 mouvements politiques sont le Leaders Party, le Vanuatu Party, le Mouvement de réunification pour le changement, le Parti Terre et Justice et le Parti du développement rural du groupe Yauco. Selon les calculs de leurs dirigeants, ils posséderont ensemble plus de 30 sièges dans la nouvelle Assemblée, alors que 27 sont officiellement requis pour y détenir la majorité. Leurs dirigeants sont des hommes politiques déjà connus, à commencer par Johnny Koanapo du Vanuatu Party, qui a plusieurs fois été ministre des Finances, et le premier ministre sortant, Charlo Salwai, du Mouvement de réunification pour le changement. Les 3 autres signataires du protocole d'accord sont des anciens ministres des Affaires étrangères, à savoir Jotam Napat du Leaders Party, Ralph Regenvanu du Parti Terre et Justice, et Marc Atti du groupe Yauco. Des pourparlers vont maintenant avoir lieu pour désigner lequel d'entre eux sera leur candidat au poste de Premier ministre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h50 sur Radio Rythme Bleu, une deuxième pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole est fait assez rare. Bernard Arnault, le patron de LVMH, est exprimé devant la presse.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Ces interventions médiatiques sont plutôt rares. Bernard Arnault est donc sorti de son silence. Le patron de LVMH s'est exprimé devant la presse pour dénoncer les hausses d'impôts sur les plus grosses sociétés qui sont prévues dans le projet de budget. Bernard Arnault fustige une taxe sur le Made in France qui pousse à la délocalisation.
En France, aujourd'hui, il y a quand même des projets de taxation des entreprises de manière énorme. 40% d'augmentation des impôts, dont on dit que ça va être annuel, mais personne n'y croit. Une fois qu'on a augmenté les impôts de 40%, qui va les baisser de 40%? On taxe les entreprises qui fabriquent en France. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où les impôts sont de 15% plus des subventions, il y a quand même une différence d'ambiance. Malheureusement, en France, on a tendance à taxer les entreprises qui sont des bons citoyens. Au lieu de taxer uniquement les entreprises qui produisent en France, parce que vous avez des grosses entreprises françaises qui font des bénéfices à peu près comparables à ceux de LVMH, qui ne vont pas payer d'impôts du tout. Et donc, il y a une espèce de discrimination pour les fabricants français dont nous sommes et dont d'autres sociétés, du luxe en particulier, font partie.
Voilà donc pour cette déclaration de Bernard Arnault, le patron de LVMH, sachant que le projet de budget sera étudié en commission mixte paritaire jeudi prochain. S'il devait être adopté à l'Assemblée nationale avec le recours du 49-3, les partis de gauche devraient la voter, cette motion de censure, y compris le Parti socialiste, dont ce n'était pas la première intention, mais qui est vent debout contre les propos tenus par le Premier ministre sur la question de l'immigration et qui a évoqué le sentiment de submersion migratoire, des propos que François Bayrou a assumés devant l'Assemblée nationale.
Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté, parce que qui peut dire que ce n'est pas vrai ? Qui ?
Ces propos ont donc irrité le Parti socialiste qui devrait donc décider de sanctionner le gouvernement. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Très clairement, le Parti socialiste se dirige vers une censure morale et non budgétaire de François Bayrou, selon un poids lourd du parti. Olivier Faure et ses collègues ont même suspendu les négociations avec Bercy, alors qu'un accord de non-censure était sur le point d'aboutir. Mais le patron des députés socialistes, Boris Vallot, justifie cette rupture par un profond désaccord idéologique.
Je ne peux être moi que consterné, submergé par la consternation de votre réponse.
Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice.
La confiance est rompue. Tenir ce genre de propos en pleine négociation est irresponsable, ajoute un sénateur socialiste. Pourtant, en 1989, François Mitterrand, alors président de la République, affirmait « Le seuil de tolérance des immigrés présents en France a déjà été atteint », une ligne politique désormais rejetée par le Parti socialiste.
L'actualité en métropole, ce sont aussi les grands travaux prévus pour rénover le musée du Louvre. L'un des plus célèbres musées du monde va devoir faire en effet peau neuve, devenu vétuste et soumis à une surfréquentation qui le met à mal. Emmanuel Macron s'est rendu sur place et il a annoncé des travaux dont le montant estimé est de 7 à 800 millions de francs, Jacques Serret.
Pour faire ses annonces, Emmanuel Macron n'a pas pu s'en empêcher.
Avoir l'occasion de vous parler sous le regard inqualifiable de la Joconde est tout à la fois un privilège et en même temps pousse à l'humilité.
Un discours devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci pour marquer l'importance du moment. Notre-Dame achevée, le président veut son nouveau grand chantier.
Ce projet doit être pour l'art, l'histoire de l'art et sa transmission, une nouvelle étape aussi dans la vie de la nation.
Un projet nommé Nouvelle Renaissance, clin d'œil à la période du portrait de Mona Lisa, clin d'œil aussi à son parti politique. Est-elle un architecte ? Le chef de l'État détaille son plan.
Cela passera d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée, au niveau de la colonnade de Perrault.
Une autre entrée et de nouvelles salles d'exposition.
Nous créerons à partir de là de vastes espaces souterrains sous la cour carrée.
C'est là que la Joconde sera exposée d'ici 2031, promet le locataire de l'Élysée, qui pour financer tout cela veut notamment faire payer plus cher le ticket d'entrée pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne.
Il est 11h55, il nous reste à parler sport, ce sera dans un instant après la pause avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par le handball et l'équipe de France qui s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales des championnats du monde. Les Français ont battu l'Égypte, Lionel.
Oui, 6 mois après une finale des Jeux Olympiques perdue, l'équipe de France a passé l'obstacle des quarts de finale du mondial en battant l'Égypte 34 à 33. Une victoire acquise une nouvelle fois à la sirène grâce à un but incroyable de Luka Karabatic. Le pivot a dégainé un tir du milieu de terrain juste après l'égalisation égyptienne. Le but dans la cage désertée par le gardien égyptien que les pharaons avaient sorti pour profiter d'une supériorité numérique sur leur attaque a été validé après arbitrage vidéo. Il faut dire que le ballon a franchi la ligne de but après, écoutez bien, 59 minutes, 59 secondes et 7 dixièmes de seconde de jeu dans la rencontre, à 3 dixièmes donc seulement de la sirène. Scénario incroyable, semblable à celui vécu, vous en souvenez sans doute, en demi-finale de l'Euro 2024, avec ce but venu d'ailleurs d'Elohim Prandi face à la Suède. En demi-finale, l'équipe de France rencontrera vendredi matin pour nous la Croatie qui s'est imposée 31 à 30 sur la Hongrie. Les deux derniers quarts de finale se joueront demain matin pour nous. Le Danemark rencontrera le Brésil et le Portugal affrontera l'Allemagne.
Alors les sports collectif, c'est aussi du football. On suivra demain matin notamment la dernière journée de première phase de Ligue des Champions.
Oui, une dernière journée absolument hors norme puisque pour la première fois dans l'histoire de la compétition, ce sont 18 matchs qui se joueront simultanément sur les pelouses européennes. Côté français, tous les regards seront tournés vers le Paris Saint-Germain qui sera en déplacement sur la pelouse de Stuttgart. Après des débuts bien compliqués dans la compétition, les Parisiens qui restent sur une belle victoire 4 buts à 2 face à Manchester City n'auront besoin que d'un match nul en Allemagne pour se qualifier pour les barrages de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Les trois autres clubs français, eux, sont déjà assurés de jouer les barrages. Brest s'offrira un match de prestige demain face au Real Madrid. Lille accueillera le Feyenoord Rotterdam et Monaco sera en déplacement sur la pelouse de l'Inter Milan. Nous suivrons également avec beaucoup d'attention demain l'un des grands d'Europe, Manchester City justement, qui est au bord de l'élimination. Les hommes de Pep Guardiola qui devront absolument s'imposer devant Bruges pour espérer une qualification pour les barrages d'une Ligue des Champions qui n'aura jamais été aussi serrée. À la veille de ces 18 matchs, seul Liverpool et le FC Barcelone sont assurés de jouer les huitièmes de finale de la compétition. Rappelons que les 8 premiers du classement général seront qualifiés pour les huitièmes. Les 16 équipes suivantes disputeront les barrages. Les 12 dernières équipes du général seront éliminées de cette Ligue des Champions.
En tennis, un petit mot pour signaler qu'il n'y a pas eu de miracle pour le Calédonien Maxime Chazal au tournoi sur terre battue de Piracicaba hier au Brésil. Le Calédonien s'était extirpé des qualifications, mais la nuit dernière, il a été battu lors du premier tour du tableau principal. Défaite en 2-7 face au Bolivien Hugo Delien, tête de série numéro 3 de ce tournoi. Et revenons pour terminer sur la liste des athlètes de haut niveau qui a été publiée par le ministère des Sports. Liste sur laquelle plus de 100 sportifs calédoniens sont inscrits. Nous en avons parlé ce matin avec Félicia Ballanger, la référente régionale de la haute performance pour l'Agence nationale du sport.
Et voir apparaître son nom sur ces listes, c'est tout d'abord acquérir un statut particulier, celui de faire partie des meilleurs athlètes de la nation dans sa discipline, ce qui bien évidemment n'est pas donné à tout le monde. Cette liste de haut niveau comporte plusieurs niveaux et chaque année, année que cette liste est établie en prenant en compte des critères de performance, nous expliquait ce matin Félicia Ballanger.
Alors c'est chaque année, il faut avoir fait une performance notable qui rentre dans les critères de la fédération dans laquelle on évolue pour accéder à cette liste. Ce sont les directions techniques nationales qui valident les performances dans les compétitions de référence. Pour les élites, c'est très simple, compétition de référence, championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux olympiques en catégorie élite évidemment. Dans les sportifs qui ont fait les Jeux olympiques, il y en a qui seront élites, d'autres qui seront seniors. Mm-hmm. Élite, ce sont les finalistes, quoi. Mm-hmm. Il faut médaille olympique, on est forcément élite.
Et outre cette liste d'athlètes de haut niveau, il existe d'autres listes qui donnent un statut à d'autres athlètes et notamment aux plus jeunes.
On a la liste collectifs nationaux qui permet à des sportifs de haut niveau qui auraient une année sans résultat ou une année de blessure ou une année où ils ont voulu mettre l'accent sur leur formation professionnelle de rester dans un collectif parce qu'ils peuvent encore être appelés en équipe de France. Elle sert un peu cette liste de SAS parce que du coup, ça fait une petite marche intermédiaire pour les espoirs qui est la troisième liste. La liste espoir, ce sont des jeunes qui sont détectés par leur fédération au niveau national, qui ont obtenu forcément des résultats au niveau national, qui commencent à pointer leur bout de leur nez dans les équipes de France jeunes. C'est plus de la détection et du repérage que des résultats précis.
Les figurés sur ces listes des athlètes de haut niveau donnent également quelques avantages, notamment en termes d'aménagement de la scolarité pour celles et ceux qui sont concernés par les études. Des aménagements qui fonctionnent également en Nouvelle-Calédonie, même si on le sait, le calendrier scolaire est décalé par rapport à la métropole.
Il y a des aménagements qui sont faits pour les sportifs ici, avec la collaboration du vice-rectorat et des établissements scolaires qui souhaitent s'engager dans ce dispositif. Donc les textes, effectivement, qui existent en métropole sont pris en compte ici et on fait tout justement pour que nos sportifs puissent mener leurs études. Surtout, le danger, c'est qu'ils arrêtent les études pour le sport qui, finalement, est très aléatoire hein, parce que dans les 80 sportifs espoirs, c'est pas garanti qu'il y en ait un qui soit champion olympique un jour. Donc, voilà, il faut surtout pas... on fait en sorte qu'ils n'abandonnent pas leur projet de formation. En plus, ça apporte un équilibre important.
Et pour cette année 2025, ce sont 33 athlètes calédoniens qui sont sur la liste dite de haut niveau, 17 sur la liste collectif national et 80 sur la liste espoir. Félicia Ballanger, référente régionale de la haute performance pour l'Agence nationale du sport, était à 7h30 notre invitée du matin. Interview que vous retrouvez bien évidemment en podcast sur notre site internet rrb.nc.